Latifa Imziaten, bonjour.
Bonjour.
Je suis très heureux de vous voir aujourd'hui. Je rappelle à tous nos auditeurs qui ne le sauraient pas, mais je pense qu'il y en a peu qui ne le savent pas, que votre vie a basculé le 11 mars 2012, quand votre fils, le maréchal des logis chef Imad Imziaten, a été assassiné à Toulouse. C'était quelques jours avant que le même assassin, dont je préfère ne pas prononcer le nom, a tué d'autres soldats à Montauban et puis, bien sûr, les enfants de l'école Ozar HaTorah, ainsi que le rabbin Sandler, père de trois de ses enfants. Et vous avez récemment été l'objet d'une agression et de tags qui ont été apposés dans votre immeuble. Est-ce que vous pouvez m'en dire quelques mots?
D'abord, on était très surpris de voir quelqu'un de rentrer chez moi et de taguer ma maison, que ce soit derrière, devant la porte. Ça, on a pris un grand choc. Pourquoi moi? Pourquoi chez moi? Je ne comprenais pas pourquoi, jusqu'à aujourd'hui.
Alors, je voudrais revenir sur votre parcours parce qu'il est tout à fait exceptionnel. Et avant tout, bien entendu, parler de 2012. C'est l'époque où je vous ai rencontré quand j'étais président du CRIF. Et deux anecdotes m'ont beaucoup frappé à cette époque. La première, c'est que je suis venu lorsque, à Toulouse, il y a eu l'inauguration du square portant le nom de Imad Imziaten, vous étiez là. Et la cérémonie a eu tendance, on a cru que la cérémonie serait en quelque sorte kidnappée par les membres de... du comité français contre l'islamophobie dans sa formule de l'époque et vous avez été extrêmement forte et extrêmement décisive en leur expliquant que ce n'était pas leur affaire à eux et que ce n'était pas quelque chose qui devait être récupéré sur le plan politique. Le deuxième épisode, c'est ce que vous m'avez raconté quelque temps après. Quand vous êtes retourné à Toulouse, aux Isards, et que vous avez été entouré de jeunes qui vous ont tous dit « Mais Mohamed Merah, c'est son nom, Mohamed Merah, c'est notre idole. » Alors je voudrais que vous nous parliez de ces quelques années, parce que après le drame qui a été l'assassinat de votre fils, vous avez décidé que cet assassinat, il fallait que d'une façon ou d'une autre, il serve à quelque chose et que votre rôle était d'empêcher d'autres assassinats de ce genre.
Tout à fait. Alors, j'ai pas accepté que ces jeunes qui viennent prendre notre place et notre parole à Toulouse, le moment qui a été inauguré cette gymnase en nom de mon fils, parce que d'abord quand j'ai perdu mon fils, j'avais aucun représentant de l'islam en France qui venait me voir. Alors pourquoi là, ils sont là pour prendre la place et prendre la parole? J'ai dit non et j'étais très ferme et voilà, c'est mon devoir et c'est mon droit de tant que mère et protéger aussi mon fils et ma famille. Sur les jeunes que j'ai rencontrés à Toulouse, ça m'a beaucoup choqué. Ça m'a beaucoup choqué de dire qu'ils ont Mohamed Merah, il a mis la France à genoux. C'est un héros, c'est un martyr. J'ai dit voilà, j'ai créé cette association. Je ne savais pas comment la faire marcher, mais grâce à eux étaient l'origine de ma souffrance. Et moi, je voulais tendre la main parce que je ne veux pas un autre Merah. Je ne veux pas voir une autre mère souffrir comme moi. Et c'est ça qui a déclenché ce combat aujourd'hui. Ça fait 7 ans que je suis sur le terrain.
Alors, vous êtes venu en France dans les années, quand vous aviez 18 ans, dans les années 1978-79. Vous avez connu la France de cette époque, vous ne parliez pas français quand vous êtes venu, et vous l'avez vu se développer, et j'aimerais que vous nous disiez quelques mots sur la façon dont vous avez vu les choses évoluer depuis votre arrivée.
Alors, déjà la vie d'une femme ou d'un homme qui vient de l'autre côté de la Méditerranée, c'est toujours difficile. Difficile s'adapter, d'apprendre, mais quand on a cette volonté, et quand on a envie d'apprendre, on va plus vite. Ça, c'est sûr et certain. Parce que moi, c'était mon choix d'apprendre avant de fonder une famille. Mais moi, où j'habitais, il y avait cette mixité. J'avais pas cette difficulté. J'avais des Portugais, des Italiens, des Français, des origines de Méditerranée comme moi, de Tunis, d'Algérie, Marocains, etc. J'avais pas ce problème de différence. J'étais plus facile à m'intégrer et à m'adapter au pays que je viens de connaître et de vivre et que je suis fière d'être aujourd'hui. Et grâce à ces jeunes dames et ces messieurs qui m'ont aidé à parler le français, à m'intégrer, à m'aider même à gérer ma vie et grâce à eux aujourd'hui que je savais lire et écrire parce que vraiment beaucoup de portes sont ouvertes, mais j'avais cette volonté en moi, parce que je ne pouvais pas rester chez moi sans aller vers l'autre. Parce que j'avais une grand-mère qui me disait, n'y pleure pas Latifa, tu vas partir en France, tu vas rencontrer des autres gens, une autre civilisation. Mais garde ce regard ma fille, et souris. Et tu verras les gens, ils viendront vers toi, même que tu parles français, que tu ne parles pas le français. Et c'est vrai, aujourd'hui, je n'oublierai jamais cette phrase de ma grand-mère, à chaque fois je regarde les gens dans les yeux, et le contact ça crée. Et c'est comme ça que je conseille aussi nos jeunes et toute cette, que ce soit adulte ou jeune enfant, il ne faut pas qu'on perde ce regard, un regard humain, un regard d'amour, un regard avec le sourire.
Alors vous avez vu les choses changer, évoluer au cours des années, et ce que vous avez vécu dans votre jeunesse, vous ne le voyez plus aujourd'hui.
Non, malheureusement, aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai dit il faut ouvrir ces cités, il faut ouvrir ce ghetto fermé, il faut donner la chance à cette jeunesse, quelle que ce soit sa couleur, parce que si on ferme ces jeunes chez eux, si on ne les laisse pas leur place, et on ne donne pas la facilité, et on ne on les écoute pas, c'est compliqué à l'avenir, parce qu'aujourd'hui je rencontre beaucoup de femmes comme moi, qui ne parlent pas du tout le français. Ça me choque d'être en France 20 ans ou 30 ans et je ne parle pas le français. Comment je voudrais apprendre la valeur à mon enfant? Comment je vais apprendre les codes et les valeurs françaises, la valeur de la République à mes propres enfants? Il fallait que j'apprenne et c'est ça que j'ai appris. Mais aujourd'hui, je côtoie des femmes qui ne savent pas. Et c'est ça que aujourd'hui la plupart des jeunes, ils ne se voient plus, la plupart, ils disent « je suis marocain, algérien, tunisien, africain, etc. » Et pourtant, ils sont nés en France. Et quand je me bats avec eux, je dis « n'oublie pas, tu es né en France, tes origines, oui, c'est bien sûr, t'es tes parents, mais on n'oublie jamais d'où on vient. » C'est une richesse, c'est une force. Et c'est ça la difficulté aujourd'hui, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les prisons, que ce soit dans les foyers, que ce soit dans les quartiers. Je pense qu'il faut faire cette mixité pour ouvrir la porte, pour créer ce vivre ensemble, pour qu'on peut vivre tous en paix, tous ensemble, à chacun à son niveau, et on arrivera.
Alors, pour l'association que vous avez créée, donc l'association IMAD pour la jeunesse et pour la paix, vous avez actuellement une activité intense et vous faites très nombreuses conférences. Vous m'avez dit 3-4 fois par semaine. Vous allez dans les prisons, vous êtes dans les ce qu'on appelle les banlieues les plus difficiles. Et vous êtes donc un observateur très, très, très privilégié des évolutions de la société française. Et vous insistez beaucoup sur les sentiments d'humiliation, de discrimination et de relégation sociale qu'expriment les jeunes que vous rencontrez. Mais est-ce que en insistant trop là-dessus, on n'oublie pas d'une certaine façon qu'il y a aussi un autre élément qui est celui de l'endoctrinement, religieux, sectaire, que ces jeunes subissent?
Bien sûr, c'est pour ça mon combat aujourd'hui aussi, je travaille sur ce problème sectaire, d'avertir cette jeunesse de ne pas tomber dans ces pièges. Malgré qu'on est fragile ou on est pauvre, la religion, c'est une chose, on la pratique pour soi, on ne la pratique pas pour les autres, et ça dépend comment on apprend cette religion et avec qui qu'on l'apprend. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, malheureusement, le travail, il s'espace à la maison. Je pense l'éducation à la base. Si on a une base en famille, je pense que l'enfant il grandit très très bien. Mais si on n'a pas la base chez soi, si on n'a pas un modèle chez soi, c'est très difficile pour l'enfant. On ne peut pas mettre la faute à l'enfant. Je pense que la faute, elle est à l'adulte aujourd'hui.
Et de ce point de vue, vous ne voyez pas une évolution très... Vous voyez une évolution plutôt inquiétante dans notre société au fur et à mesure que les années passent?
Il y a, on ne peut pas dire inquiétante, il y a des positifs, il y a des négatifs, mais il ne faut pas baisser les bras. C'est pour ça que je dis, si chaque citoyen il donnera 5-10% de soi, l'État y fait son travail, je pense qu'on arrivera. Mais si on compte que sur l'État, et on met tout sur le dos de l'État, l'État il n'arrivera pas seul. Il faut la société qui s'engage aussi. Et c'est ça la République. Il faut qu'on s'engage tous pour donner la chance à chaque enfant et de laisser un monde meilleur pour cette jeunesse, parce que c'est l'avenir.
Certes, mais que peut-on faire vis-à-vis de cet endoctrinement religieux, extrémiste, islamiste, auquel les enfants sont soumis?
C'est-à-dire, il faut d'abord savoir comment ils vivent chez eux, comment ça se passe sur certaines mosquées. Il faut aussi contrôler ce côté mosquée aussi. Il y a certaines mosquées que certains imams ne sont pas à la hauteur, ils ne sont pas compétents, ils ne sont pas à leur place. Il faut faire des imams compétents, avec des formations, qui parlent le français et l'arabe, et même s'il faut l'anglais, parce qu'aujourd'hui, on a besoin de vraiment d'expliquer c'est quoi l'islam, la base, et d'apprendre à nos jeunes à prier tout simplement, la base, on n'a pas besoin d'aller plus loin, c'est ça la foi, d'apprendre à faire le ramadan, faire la prière, aller à la Mecque, faire ses zakats, voilà, c'est des choses qu'on doit pratiquer et qu'on doit grandir avec, et je pense que si on a dans la famille, on peut transmettre ça à nos enfants, et nos enfants s'il manque, il y a des livres pour ça, qu'on peut acheter des livres pour nos enfants, tout est marqué noir sur blanc. Mais il faut vraiment être très très vigilant, que ce soit en milieu sportif, que ce soit certains mosquées, que ce soit même dans les écoles. Certaines écoles, malheureusement, des fois, les gens ne sont pas préparés et ils ne voient pas le mal jusqu'à que ça arrive dans les écoles aussi. Ça arrive aussi dans les prisons. C'est une école vraiment horrible parce que c'est là où on se radicalise facilement. Cette jeunesse, je pense qu'il a besoin d'être écouté, cadré, aimé, parce que l'amour, il manque énorme. Quand vous posez une question à un jeune de 13 ans, 14 ans, 11 ans, et qui vous dit « j'ai pas d'espoir, j'ai pas de rêve, madame », c'est inquiétant. Parce qu'à 14 ans, à 13 ans, on a l'espoir, on a les rêves, et c'est ça qui manque aujourd'hui. Et c'est à nous de ramener le rêve à cette jeunesse, l'espoir, et d'être à l'écoute. C'est nous les modèles.
Alors, vous êtes allé en Israël, vous m'avez dit, 6 fois. Vous avez amené en Israël des jeunes musulmans de Sarcelles et d'autres villes des banlieues françaises. Vous avez ramené d'Israël des jeunes également, israéliens juifs, israéliens arabes, palestiniens. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de ces expériences qui sont tout de même remarquables, extraordinaires, dans un monde où la détestation d'Israël est un des ferments majeurs de l'antisémitisme?
Vous savez, ce projet, pour moi, le premier projet, il était extraordinaire parce que quand on est arrivé avec ces 17 jeunes en Israël, on est arrivé à Tel Aviv, il y avait un jeune, il m'a dit « Où sont les Juifs, madame ?» Et je lui ai dit « Mais tu ne les vois pas, ils sont là. » Parce que tu croyais qu'ils ont des cornes, ils sont différents que nous, ils sont comme nous, hein. C'est des humains, c'est comme nous. Et il me dit, ah bon, mais je ne savais pas madame, je suis désolée de vous poser cette question, j'ai dit, mais ta question elle est mal placée, mais ce n'est pas grave, je t'ai répondu quand même. Et quand on a passé les 10 jours, je voyais un changement total. de voir ces jeunes, de voir dans une famille faire le Shabbat, faire le kippa sur leur tête, larmes aux yeux. Ils étaient vraiment, ils disaient, mais merci Madame Ben Zaten. On apprend beaucoup avec l'autre. Il faut voir à une autre civilisation. Donc on était une autre religion, c'est une richesse. Et je dis, voilà, il faut ouvrir votre cœur, votre esprit, et d'aller vers l'autre. Il ne faut jamais juger sans le connaître. Et c'est comme ça que j'ai fait aussi ramener des enfants israéliens, juifs, chrétiens, israéliens, arabes, israéliens. Et c'était vraiment palestinien. Il y avait cette peur au début, et après ça créait vraiment un lien d'amour. Et quand j'entendais un Israélien, il me dit, Madame, je vais partir et je vais créer le pont de la paix. Et moi, j'ai dit, mon Dieu, j'ai gagné. Voilà, c'est ça. Et il y a une Palestinienne qui me dit, à partir de là que je vais aller en Palestine, je parlerai de toutes mes camarades que j'ai vécu avec eux. C'est Israélien. On a joué ensemble. On a partagé ensemble. C'est des gens qu'on doit côtoyer parce qu'on n'a pas cette chance de côtoyer cette jeunesse israélienne. Grâce à vous, Madame Ben Zaten, on habite en Israël et on fait le Shabbat à Paris. Il faut le faire et pourtant on habite juste à côté.
Eh bien, je vais vous dire la même chose que ces jeunes vous ont dit. Merci Madame Ben Zaten, merci d'avoir insufflé un peu d'espoir dans cette situation qui, à bien des égards, est inquiétante. Et bravo pour tout le travail que vous avez effectué depuis ces années 2012.
Merci à vous de m'avoir invité.